mais j'habitais la Suisse avant.
Alors Magda, je vous propose de rester avec nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est l'heure du flash de Maëlle Laurent. On se reparle dans 3-4 minutes maximum et vous pourrez nous faire le récit de votre vie. A tout de suite Magda, à tout de suite. La Libre Antenne revient dans un instant. Carillon d'Europe 1, on retrouve Maëlle Laurent pour le Flash Info. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous. Les menaces de Donald Trump d'imposer de nouvelles surtaxes douanières aux pays opposés à l'annexion du Groenland sont inacceptables. Propos ce soir tenu par Emmanuel Macron sur X, il promet une réponse unie de la part des Européens. Un peu plus tôt, le président américain avait annoncé une surtaxe de 10% puis 25% à plusieurs pays européens dont la France, et ce tant que le Groenland ne sera pas intégralement vendu aux États-Unis. La présidente de la Commission européenne se félicite, elle, de voir le commerce juste triompher des droits de douane. Ursula von der Leyen, qui réagissait à l'accord de libre-échange qu'elle a signé aujourd'hui pour l'Union européenne et ce, avec les pays du Mercosur. Il s'agit du plus grand accord commercial jamais signé par l'Union européenne. Un accord très contesté par les agriculteurs en guise d'opposition, les membres de la coordination rurale et des jeunes agriculteurs bloqués encore récemment depuis mardi le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. Ce blocage a été levé hier soir. En politique, le Parti socialiste ne censurera pas le gouvernement si le financement des nouvelles mesures proposées par Sébastien Lecornu ne se fait pas, je cite, sur le dos des Français, annonce ce soir de son premier secrétaire, le parti d'Olivier Faure, accusé aujourd'hui par Marine Le Pen de n'être plus que la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie, fin de citation. La chef de file des députés RN à l'Assemblée, fermement opposée aux nouvelles propositions de l'exécutif pour aboutir à un compromis budgétaire, au motif qu'elles vont encore aggraver le déficit de la France. À l'étranger, le ton est monté d'un cran entre l'Iran et les États-Unis aujourd'hui. Le guide suprême iranien a accusé Donald Trump d'être coupable de la mort des manifestants opposés au régime. Il affirme que le but du président américain est la domination militaire, politique et économique de son pays. À noter que plusieurs rassemblements ont eu lieu cet après-midi en France en soutien au peuple iranien à Paris, Lyon, Marseille ou encore Nantes. Donald Trump également critiqué sur la composition de son conseil de la paix pour Gaza. Elle ne convient ni à Israël ni au djihad islamique. Un conseil où devrait régner son chef de la diplomatie Marco Rubio ou encore Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Proposition faite également par le président américain à ses homologues turcs et égyptiens. Les négociateurs ukrainiens de retour aux États-Unis depuis ce matin, de nouveaux pourparlers ont eu lieu à Miami, en Floride. Parmi les participants, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, ou encore son gendre Jared Kushner. Rien n'a filtré à ce stade de ces discussions. Retour en France avec trois personnes mises en examen aujourd'hui pour vol de câbles dans les Yvelines et le Val d'Oise sur des chantiers de l'opérateur Orange. Un an d'investigation qui ont permis la saisie de plus de 4,5 millions d'euros d'avoirs criminels, dont un château situé dans l'Oise. Les individus ont été placés sous contrôle judiciaire. Et puis un mot de sport, la France brille ce soir en patinage artistique et ce grâce au duo Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, sacrés champions d'Europe de la discipline, pour la première fois ensemble en Grande-Bretagne. Ils ont dominé l'épreuve de danse libre et celle de danse rythmique. Une très bonne nouvelle à 3 semaines des Jeux Olympiques de Milan-Cortina en Italie. Et puisque je vous parle d'Italie à minuit 3, tiens, restons-y. Mais en musique, un choix très personnel qui devrait plaire à tous les auditeurs d'Europe 1 et à vous Valérie, puisque ça parle d'amour. C'est Via Con Me et Paolo Conte qui arrive maintenant.
Oui, j'adore.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip chip. Do 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 chip chip. Entra Ora in questo mare buio, pieno di uomini, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do.
On ne s'en lasse pas. Paolo Conte, Via Con Me.
Ça fait du bien.
1981.
Oh là là.
On a un peu voyagé ensemble ce soir, Valérie.
Ah oui, bah comme à chaque fois, en
et
fait.
Et on revoyage demain.
De toute façon, de vous voir, ça me fait déjà voyager, hein, tout simplement. On va... Oui, bah si, moi je l'avoue. Je dis tout, moi, aux auditeurs d'Europe 1. Voilà, bah, c'est pour ça que je vous retrouve demain.
Nouveau voyage.
Voilà, de beaux rêves. Voyagez
d'ici
bien
là.
Au pays des rêves, dans le monde onirique. À demain, Maëlle Laurent.
Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, c'est le numéro non surtaxé de notre standard. 7 39 21, 75 centimes plus coût du SMS. C'est notre numéro pour que vous nous laissiez vos réactions par SMS, évidemment. Et puis, si vous souhaitez interagir aussi avec les auditeurs, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Et puis, on vous rappellera. Libreantenne@europe1.fr, c'est notre adresse mail que vous connaissez déjà. Magda, je vous retrouve. Je vous retrouve.
Oui, c'est moi.
Voilà, pour évoquer le récit donc de votre vie. Vous avez 76 ans, vous vivez en Touraine et vous avez deux enfants. Vous n'avez pas toujours vécu en Touraine puisque vous avez aussi vécu en Suisse. Et vous êtes d'où, Magda ? Parce que Magda, c'est un prénom d'Europe de l'Est.
Ben, j'ai un peu expliqué à Nicolas, c'est une grande histoire et j'ai mis beaucoup d'années à trouver les mots pour expliquer ma vie. Ben, j'ai écrit un livre d'ailleurs pour essayer de reconstituer le morceau de puzzle parce que j'ai été projetée dans une histoire qui me dépassait. J'ai jamais rien décidé de moi-même et donc je suis née en fait à Prague,
oui,
dans un palais, et j'ai toujours vécu comme une cendrillon. Donc, dans un des plus beaux palais de Prague, et puis on a vécu, je suis née sous Staline, donc on a vécu le coup de Prague, le changement de régime, le coup en 48, la prise de pouvoir des communistes, et donc du coup, toute la famille a été spoliée, tout a été confisqué. Mais en fait,
vous êtes une aristocrate. Vous êtes une aristocrate tchèque, comme dans les films.
Oui, ben, d'une très grande famille du côté de ma mère, une famille princière.
Ah oui.
Alors donc du coup, mais moi je vis dans une bulle parce que j'ai dû vivre dans l'omerta par rapport à mon histoire. Parce que j'ai dû en fait quelque part me cacher de tout ce qui est arrivé dans la famille d'une manière ou d'une autre. Mais pour résumer, au départ de la vie, ça cristallise en fait toute une vie, les premières années. C'est pour ça que je l'ai raconté un peu à Nicolas, parce que dès le départ, il y a eu des traumatismes qui sont toujours là. Ça veut dire que j'ai perdu ma mère à 3 ans et demi.
Ah oui, c'est très petit. Qui s'est occupé de vous ?
Elle est passée sous un train. On dit qu'elle s'est suicidée, on ne sait pas. Parce que moi, en fait, on m'a beaucoup cachée. Personne ne s'est occupé de moi. Si, mon père, mais mon père était derrière le rideau de fer. Ça veut dire qu'il était à Genève, il travaillait au BIT, parce que ma mère et mon père, avant les événements, s'étaient mariés. à Genève, et mon frère est né là-bas. Et quand il y a eu le coup d'État en 1948, la prise de pouvoir des communistes, ma mère est retournée pour aider ses parents qui étaient dans le désarroi et dans l'affolement de ce qui se passait. Et donc ma mère est retournée et elle était enceinte de moi et moi je suis née là-bas à Prague et elle n'a pas pu repartir parce qu'il y a eu le rideau de fer.
Ah oui, donc la famille a été complètement coupée en deux et pour longtemps.
Et pour longtemps, et alors mon père n'avait pas le droit non plus d'aller à Prague, puisqu'il y avait le rideau de fer, et lui, il était belge, et ma mère était tchèque, et donc du coup, moi, ma mère était affolée, donc elle m'a mis à la campagne chez une nounou, heureusement, parce que cette nounou, elle m'a aimée, et ça a déterminé beaucoup de choses dans ma vie, parce qu'elle s'est occupée de moi à partir de 6 mois, jusqu'à 3 ans, jusqu'à la mort de ma mère. Ma mère venait me voir, mais je n'ai pas de souvenir précis. Elle est décédée. Elle m'a hantée. Elle m'a hantée. Toute ma vie, hein, elle m'a hantée parce que d'abord on m'a caché énormément de choses.
En voulant vous protéger, Magda, c'est important. Hein. On vous a caché des choses pour vous protéger. Alors, je ne dis pas qu'il faut cacher des choses, évidemment, mais là,
non,
la démarche...
Non, ce n'est pas elle qui m'a caché, c'est mon père. Et autour, elle ne m'a jamais rien caché. Pour moi, ma mère, elle est devenue mythique, surtout qu'elle était très belle, elle était princesse, elle était extrêmement belle.
Vos grands-parents maternels, ils n'auraient pas pu vous s'occuper de vous, non?
Alors justement, quand ça s'est passé comme ça, c'est un peu tragique aussi parce que, en fait, ma grand-mère voulait me garder, s'occuper de moi, malgré les situations, elle s'est attachée à moi, à mon frère aussi, mais surtout à moi parce que j'étais une fille et bébé, encore assez bébé. Et donc, mon père voulait me récupérer. Donc, il a eu un droit de vie. Il a eu finalement, parce qu'il était le père, un droit de venir. Il a eu un visa à la mort de ma mère pour l'enterrement de ma mère, parce que ça a été brutal et personne s'y attendait. Et donc c'était un moment tragique. Et quand mon père est arrivé, il a voulu me récupérer naturellement.
Oui. Et alors
ma grand-mère m'avait mis au lit en disant à mon père que j'étais malade, qu'on ne pouvait pas me prendre et tout ça. Et alors il a été chercher du renfort, il m'a enlevé.
Ah, il vous a enlevé votre père?
Ouais. Enfin, il m'a pris violemment, il a pris les vêtements, j'étais en pyjama, et alors que je le connaissais.
À peine, oui, voire pas du tout,
moi,
mais c'est ça.
Pour moi, c'était un rapt.
Et vous n'avez pas dit au revoir à votre nounou?
Non. Non, c'était comme ça, brutal.
Oui.
Et du coup, moi, je me trouvais avec un homme que je n'avais pratiquement jamais vu. En plus, il ne parlait pas ma langue. Et il avait un dictionnaire, mais mon frère et moi, heureusement, on était très proches. Mon frère et moi, on avait un an de différence. Mais on parlait tchèque ensemble. Et donc, mon père, il ne comprenait pas. Donc, on était avec un homme qu'on ne connaissait pas, qui ne parlait pas notre langue. Alors, mon frère le connaissait un peu plus, puisqu'il il était né à Genève, donc il le connaissait, il était plus docile que moi. Mais moi, je lui crachais au visage.
Il avait quel âge, votre frère?
Il avait un an de plus, il avait 4 ans.
Ah oui, vous étiez vraiment tout petit, 4, vous étiez
oui,
tout petit tous les deux.
Oui, et moi 3 ans et demi. Et du coup, on s'est rapprochés un peu comme des jumeaux, parce que c'est tout ce qui nous restait. C'est mon frère et moi, on s'est rapprochés beaucoup quand on était petits. Et on était en plus très complémentaires. Il était blond, j'étais brun, brune, enfin, tout était complémentaire. Du coup.
Et vous êtes restés proches toute votre vie?
Non, il y a une cassure. malheureusement à cause de mon père, parce que mon père a été incestueux et que moi, il y a eu l'omerta.
Incestueux avec vous ?
Oui. Alors, mais il faut que je raconte avant, parce que sinon
on vous écoute, on vous écoute, Magda, on vous écoute.
Parce qu'on ne comprendrait pas, parce que c'est pour ça que j'ai écrit, parce que je ne comprenais pas moi-même, je cherchais mes mots, je cherchais, j'étais toujours dans la sidération de ce qui m'arrivait, parce que je décidais jamais de rien. Alors donc du coup, mon père m'a enlevée, et avec mon frère, et on est parti sur les routes, et lui, il a fait un, comment on appelle ça, une errance, et une fuite en avant, et il s'est pas arrêté, dans le sens que il s'est arrêté en Belgique 2 mois, et puis après il
est allé. Et comment il a réussi à vous sortir
Il a eu un visa, il a mis 2 mois, quand même 2 ou 3 mois, pour avoir un visa de sortie, étant donné qu'il était le père.
Ah, d'accord. D'accord.
Donc, comme c'était le père, il avait le droit de nous prendre.
De sortir les 2 enfants, d'accord.
Oui, oui. Alors, donc, on est sorti comme ça. Il s'est arrêté en Belgique, chez une tante, pendant 2-3 mois, et un ami qui lui a prêté une maison à retaper, mais ça a duré 2-3 mois. Après, il est assez idéologue, il voulait parcourir l'Europe pour la cause européenne, et il s'est jamais arrêté. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu de logement fixe. Donc après, on est parti en Autriche, 6 mois dans une ferme. Il a travaillé dans une ferme. Après en Allemagne, après en Italie, il a travaillé avec Jacques Picard. Et après on est allé jusqu'entre 4 ans et 8 ans, on est 10 ans presque, 8 ans, on n'était pas scolarisé. Après, il s'est aperçu quand même qu'on devait quand même apprendre à aller à l'école. Et
mais, il vous enseignait quand même des choses ou pas du tout? Il vous traînait comme
oui,
ça de pays
route,
en pays, de ville en ville?
On a fait toute l'Italie, sac au dos, hein, avec une voiture en stop, en fait, parce qu'il n'avait pas de voiture ni rien.
Mais vous mangiez, comment il vous faisait vivre?
Ben, je sais pas, parce que, en fait, il avait des adresses. Alors, on atterrissait parfois chez des gens, on restait 2-3 jours. Et puis on restait pas plus de 3-4 jours. Et après, il avait des amis, je crois, qui lui ont prêté de l'argent. Parce qu'il avait pas d'argent ni rien, il avait rien.
Comment il vous nourrissait, Magda? Vous mangez à votre faim? Vous dormiez dans des lits?
Non. Dans des lits, oui, des lits improvisés dès qu'on arrivait chez quelqu'un, mais on dormait pas dehors, hein. Donc, mais on a atterri chez l'abbé Pierre à Emmaüs dans l'hiver 54. Je me souviens de la table d'Emmaüs à Paris. Donc il a travaillé avec les compagnons bâtisseurs, enfin, il a été bûcheron, enfin, il a fait un peu tout en Autriche.
Oui, il a tout fait.
Voilà, il faisait des petits boulots, mais il voulait surtout pas nous lâcher. Ce qui fait qu'on n'a pas été scolarisés du tout. Donc, il nous a emmenés partout, là où il allait. Alors, il faisait un petit boulot, et puis il repartait, et parfois pas de boulot du tout.
Il ne voulait pas se poser à un endroit précis
non,
avec ses enfants.
Non, il n'arrivait pas, je crois, il n'arrivait pas à se poser. Alors, il s'est posé parce que il s'est improvisé prof dans un institut en Suisse, alors qu'il n'avait pas de diplôme, hein. Mais pour qu'on soit scolarisé, c'était, vous savez, des petits collèges à la montagne en Suisse. Donc, il s'est improvisé pion, puis prof de français. Mais on était toujours dans sa classe. On dormait toujours dans la même chambre, même à trois.
Mais vous lâchez jamais.
Vous ne lâchez pas.
Donc vous n'arriviez pas à vous faire, même scolariser, des copains, des copines, avoir une vie d'enfant. Vous n'avez jamais eu une vie d'enfant.
Pardon ?
Vous n'avez jamais eu de vie d'enfant.
Oui, il y avait les petites copines du collège dans lequel on était, mais il me surveillait tout le temps, il supervisait tout, et ça a duré jusqu'à 25 ans.
Il était directif ?
À tout, je pouvais absolument rien faire sans son autorisation, sans son aval, et jusque même quand j'ai eu mon premier amour, j'avais 25 ans, et c'était vraiment un petit flirt de rien, j'étais vierge et tout, il m'a envoyé au couvent, chez les cisterciens.
Ah oui, il vous a envoyé au couvent, il vous a enfermé en fait. Et il faisait la même chose avec votre frère ?
Alors mon frère, il a eu la chance, il a senti que quand il y a eu un début d'inceste, parce que en fait ça n'a pas été jusqu'au viol, mais j'avais la peur au ventre tout le temps que ça aille plus loin. Mais il me touchait régulièrement, il me caressait et tout ça, mais comme s'il était père et mère, moi j'étais dans une confusion complète parce que j'avais pas de femme autour de moi. Il n'y avait que mon frère et mon père, et il avait fait un vase clos.
Oui, c'est ça, vous étiez un vase clos complètement, donc vous ne pouviez pas comparer avec ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas.
Même quand j'ai une amie, j'avais l'adolescence à 13 ans, polonaise d'ailleurs, que j'ai adorée. Mais il me surveillait tout le temps. Il m'empêchait après de la voir pour une raison ou pour une autre, parce que son père était soi-disant divorcé. Enfin, il trouvait toujours des raisons. Des raisons de me couper
du monde.
Oui. Et maintenant, je vis toujours dans une bulle. Mais le problème, c'est que j'ai une fille, et malheureusement, elle vit aussi dans cette bulle. Mais bon, ça, c'est une autre page.
Comment vous vous en êtes sortie, Magda ? À quel moment vous avez réussi à vous affranchir, à sortir de cet enfermement, de cette prison ?
Je crois que je ne m'en suis jamais affranchie. Si, je me suis affranchie parce que j'aime la solitude. Et surtout, parce que j'ai eu des amis qui m'ont quand même épaulée. Des amis spirituels qui ont compris un peu entre parenthèses de ce qui se passait, parce qu'après mon frère a eu un petit collège qui était un peu privé, mais donc avec des élèves, mais j'étais très petit et j'ai rencontré des parents d'élèves qui ont vu des choses, qui ont ressenti que j'étais sous coupe. Ils avaient mis la main dessus, sur moi.
Et dites-moi, Magda, il n'abusait que de vous ou il abusait de votre frère aussi ?
Le problème avec mon père, il était aussi grave parce que, en fait, il draguait ses copines. Dès que mon frère avait une petite amie à l'horizon, il la draguait, ce qui fait que ça perdait forcément la fille, elle n'y comprenait rien et la relation était cassée.
Et votre frère, il se rebellait contre votre père ?
Il s'est rebellé, mais sans pouvoir vraiment, parce que comme on a vécu en boule, c'est un peu comme les chiens qui n'ont que leur maître, vous savez, on n'avait rien d'autre comme repère. Et mon frère encore plus que moi, parce que c'était un homme. Moi, j'ai dû couper comme avec un couteau, je vous raconterai après, parce que c'est une histoire hallucinante, quoi. Mais lui, il n'a pas su vraiment s'opposer à mon père, ce qui fait que il a pris la poudre d'escampette et il est parti sur un bateau aux Canaries. Il s'est fait moussaillon et pendant un an ou deux, même plus, deux ou trois, moi je ne le voyais plus parce que en fait il sentait que ça sentait le roussi, tout ça, et qu'il ne voulait pas il pouvait pas intervenir. Et
il a sauvé moi, sa peau. Dis... Il a sauvé sa peau et il vous voilà, a laissé entre les griffes de votre bourreau, oui.
Voilà, mais il m'a laissée toute seule. Alors moi, c'était encore un abandon de plus. Parce
et vous
que
aviez quel âge à ce moment-là quand votre frère s'en va?
J'avais 22 ans.
Et vous, à 22 ans, alors je sais que c'était une autre époque, il y a tout le bagage de votre vie qui est très lourd à porter, évidemment, mais à 22 ans, vous n'avez pas le ressort de partir, d'essayer de trouver quoi, un échappatoire.
On était à 1200 mètres d'altitude, il n'y avait rien. C'était un chalet, il n'y avait rien, il n'y avait que des alpages. Et donc, du coup, je suis tombée amoureuse d'un berger. Et alors que je viens d'une grande famille, vous voyez, mais parce qu'il m'avait complètement isolée de tout.
Oui. Et les amis dont vous parliez, qui ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal.
Oui. Heureusement, c'était des parents d'élèves qui ont vu, parce qu'il y avait quelques élèves quand même pendant quelques années. Ils avaient créé une petite école, mais qui était un peu sectaire, parce que mon père est devenu religieux, il y a mon chat qui passe, religieux et intégriste. Ils m'ont emmené à Icône chez Monseigneur Lefebvre, des trucs comme ça. Ils me parlaient tout le temps de Dieu. Parce qu'au départ, j'étais assez chrétienne, comme on est dans une famille chrétienne. Mais il m'a embarqué dans son intégrisme et il m'a emmené à Icône voir le Monseigneur Lefebvre et tout ça, mais moi j'ai pas du tout adhéré. Et heureusement j'avais en moi quelque chose d'autre que lui. Et donc du coup j'ai pas adhéré du tout. Et alors il m'a culpabilisé tout le temps. Mais en parallèle, il y avait des contradictions énormes puisque il se permettait de faire tout et n'importe quoi avec moi. J'ai reçu à un moment donné, ma grand-mère a pu sortir de Tchécoslovaquie au décès de mon oncle, malheureusement qui s'était enfui dans le capot d'une voiture et qui avait rejoint Munich. Et ma grand-mère a pu aller à Munich et elle est restée à Munich. Et elle avait une maison là de famille, un immeuble en fait. Et à son décès, elle a fait un testament en nous léguant tout, mon frère et moi. Mais mon père a demandé une procuration. Il s'est remarié et nous, on n'a rien osé dire. Et il a tout versé sur mon compte et moi, j'étais dehors, j'ai jamais rien eu.
Ah oui, donc la deuxième spoliation, hein, spoliation de la famille à cause de l'histoire, de la grande histoire, et spoliation par votre père.
Voilà, et la plus grave pour moi, parce que je me suis retrouvée... en fait, il a essayé de m'écarter en me mettant chez les cisterciens, hein. C'est comme ça que je le vois, hein. Mais il s'est remarié, c'est quand il s'est remarié qu'il s'est dit « il faut bien que je vive de quelque chose ». Et en fait, il n'avait pas du tout le droit parce que c'était seulement à mon frère et moi. C'était un testament pour mon frère et moi, une somme conséquente. Mais on avait un tuteur, il a renvoyé le tuteur. Au départ, on était mineurs, après on était majeurs, mais on n'a jamais osé.
Vous opposez, vous ne vous êtes pas opposé à lui, oui. Est-ce que vous avez revu votre grand-mère maternelle quand elle était à Munich?
Alors, on est allé justement parce qu'il y a beaucoup de tragédies dans la famille. Mon oncle, frère de ma mère, est décédé dans un accident de voiture à Munich. Alors, ma grand-mère a eu l'autorisation de sortir pour son décès. Et donc, on a pu aller la voir. Et là, je m'en souviendrai toujours parce que je l'avais pas vue depuis que j'étais partie
en l'âge de 3 ans. Oui.
Et donc, j'étais extrêmement émotionnée parce que je montais les escaliers, j'avais mon cœur qui battait à toute volée et j'ai vu une dame extraordinaire. Ils avaient tous des yeux très, très, très bleus dans la famille, qui avaient pleuré pendant des jours et des jours. Et puis quand elle m'a vu, alors c'était vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi. Une émotion intense, énorme.
Surtout que cette femme avait perdu deux de ses enfants, votre mère et son fils.
Voilà, et son fils et son mari. Et son mari la même année que ma mère, en plus. Donc elle avait tout perdu. Et elle avait que moi et mon frère. Et elle s'était beaucoup attachée à moi quand j'étais petite. Donc c'était une grande, grande émotion. Mais le souci, figurez-vous, c'est encore une histoire de langue, c'est qu'on ne parlait plus la même langue. Elle parlait l'allemand, elle parlait le tchèque, mais elle ne parlait pas le français. Moi, j'avais oublié, j'avais 15 ans, j'avais oublié le tchèque, et mon allemand était un tout petit allemand. Alors, mon père était là, donc il a fait des traductions, mais il me surveillait tout le temps parce qu'il avait peur qu'elle me récupère aussi là-bas. Donc du coup, il traduisait, mais je sentais qu'il me surveillait, qu'il surveillait la rencontre, parce qu'il voulait absolument pas que j'aille chez elle.
Alors, à quel moment vous avez trouvé un peu de liberté, Magda? Comment vous vous êtes sortie de ce piège? Est-ce que c'est lui qui vous en a sorti lorsqu'il s'est remarié, par exemple? Et qui vous a mis de côté, puisque ce qui l'intéressait, c'était l'héritage.
Oui, c'est ça. Mais comment ça s'est passé? Figurez-vous que j'ai pu faire les beaux-arts, mais je revenais. Mais j'ai quand même pu faire les beaux-arts, parce qu'à 22 ans, il s'est rendu compte qu'il fallait bien que j'avais le droit de faire des études. Alors, heureusement que j'ai eu l'art, j'avais des talents. Et j'ai pu faire les beaux-arts en Belgique. Parce que j'avais justement ces amis, les parents d'élèves qui pouvaient m'héberger le week-end. Donc j'étais au pair dans une famille et puis je revenais à Noël et pendant les vacances. Et ça a duré 2 ans. Et ça a été la meilleure période de ma vie parce que j'apprenais les arts et j'étais assez douée de ce côté.
Et puis vous étiez libre et protégée.
Libre et protégée, mais il y avait toujours la pression de mon père, et puis surtout, j'avais aucun moyen non plus, personne. Si, mes amis m'aidaient parce qu'ils m'hébergeaient le week-end, mais mon père était toujours quand même derrière, et ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais conditionnée aussi, donc je suis revenue à Noël et pendant les vacances, j'étais conditionnée à revenir.
Mais vous aviez le syndrome de Stockholm, en fait, avec lui, hein?
Oui, c'est ça. Donc je suis revenue et après, je me suis aperçue que j'avais plus rien à faire là. Mais je ne comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait. Donc j'allais chez les voisins et j'ai commencé à faire une dépression. Et j'avais rencontré dans un magasin une peintre qui m'avait regardée, qui s'était attachée à moi et qui m'avait invitée dans son chalet. Et puis elle m'a demandé un jour, mais pourquoi tu es si mal habillée? J'étais toujours mal habillée, sans rien, pourquoi ton père est directeur? Et elle voyait que j'étais complètement démunie. Et je lui ai raconté mon histoire comme ça, c'était la première fois. Elle m'a dit, tu es encore sous tutelle à 25 ans, parce que mon père avait pris la tutelle sur moi. Oui. Donc, puisqu'il m'avait demandé une procuration et qu'il gérait soi-disant tout, en train de rien me donner. Et donc, elle m'a dit, on va chez le notaire, on va ratifier tout ça.
Ah, donc elle vous a pris sous son aile et c'est là que vous vous êtes émancipée d'une certaine manière?
Alors attendez, c'est pas fini parce que quand elle a su ça, elle a dit on a ratifié la tutelle. Et donc mon père était furieux et il me parlait plus du tout dans l'école ni sa femme. Et il était remarié à une femme plus jeune que moi, en plus. Ni sa femme ni moi ne me parlaient. Et elle a dit, un jour, elle voyait que ça n'allait pas du tout avec moi, et elle est venue avec sa voiture de sport, parce qu'en fait, elle avait quand même quelques moyens, mais elle était peintre aussi, mais peintre déjà assez renommée. Et donc, du coup, elle m'a dit, je t'emmène. Elle m'a embarquée, elle a tout pris dans ma chambre. J'avais pourtant 25 ans, donc j'étais enlevée. Une fois de plus, je me suis laissée enlever de chez mon père, comme quand j'étais petite, en fait.
Oui, sauf que là, c'était pour la bonne cause. Hein. Elle vous a exfiltré, bah, oui, hein, d'une certaine manière. Là, c'était pour la bonne cause, avec bienveillance. Et votre frère, à ce moment-là, qui a donc 26 ans, il est toujours...
Il était loin, quoi. Il avait pris le large, il était aux Canaries, ou je ne sais pas. Il a vécu un peu comme un navigateur, il aimait la mer et il faisait comme il pouvait, quoi. Mais il est parti à l'aventure. Et il a d'ailleurs voyagé toute sa vie. Il a passé sa vie à prendre des fuites, hein. C'est même vis-à-vis de moi. Donc, il a passé toute sa vie à fuir, quoi. Oui. Et surtout, quand on s'est retrouvé à Prague, si je parlais de mon père ou de mon histoire, de l'omerta, il me donnait des coups de pied sous la table pour que je me taise, ce qui fait que personne n'était au courant de rien.
Ah oui, il préférait que tout ça reste dans le secret, en fait. Hein.
Ouais. Secret,
il avait honte.
Dans...
Il avait honte de son histoire. Il avait honte de son parcours, votre frère.
Oui.
Il a créé une famille. Il a fondé une famille.
Non. Mmh. Il a eu un fils. Naturel, en fait, au départ il l'a pas reconnu, et maintenant il l'a reconnu, à 30 ans, quoi. Mais c'est ça, pas sa femme, mais la femme avec qui il a vécu 2-3 ans, qu'il avait rencontré dans ses voyages, qui a élevé son fils. Mais il s'est jamais marié. Et il n'a jamais vécu en couple.
Oui, il ne s'est jamais posé, en fait. Hein.
Non, jamais. Il bouge tout le temps maintenant. Il vit en Thaïlande, plus ou moins, entre Prague et la Thaïlande. Mais il a récupéré des biens, puisqu'il y a eu les restitutions. Donc, il a pu récupérer des biens.
Oui. Vous aussi ou pas, Magda? Vous aussi?
Moi, je l'ai aidé avec des amis financièrement. Je suis allée 3-4 fois par an en espérant que j'allais récupérer. Mais lui, il a tout récupéré à son nom. Il a pas partagé.
Donc là aussi, spoliation par votre frère.
Voilà.
Alors revenons à vous. Donc là, vous, cette femme, cette peintre, arrive à vous sauver. Hein, elle prend vos affaires et elle vous fait partir de ce chalet. Elle prend la dimension elle mesure la dimension de ce que vous vivez, qui est complètement anormal. Hein, parce que vous étiez sous
elle
sa
mesure,
coupe.
Elle s'était déguisée pour aller chez le notaire parce qu'elle avait peur de mon père, des foudres de mon père. Et donc du coup, elle s'est déguisée. Et c'était pas très drôle, hein, parce que j'étais sous tension aussi. Et donc, ça m'a permis de récupérer un petit peu d'argent de mon oncle qui était décédé, parce que tout passait dans la main de mon père, étant donné qu'il avait une procuration.
Oui, procuration surtout.
Donc, dès
bien
qu'il
sûr.
A plus cette procuration, j'ai pu avoir un petit pécule, et j'ai pu m'acheter un petit deux pièces carrément.
D'accord.
En Suisse, et ça m'a permis de me poser.
Oui. Et vous avez choisi quelle ville pour vous poser?
En Suisse, c'était dans les montagnes.
Vous êtes resté dans les montagnes.
Au même endroit, oui. Mais avant ça, elle m'avait mis dans une chambre en attendant, hein, parce que le procès a été. J'ai fait un procès après, hein, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que c'était trop dur pour moi. Donc, elle m'a mis dans une chambre. Et à 5 km de là, et 3 jours après, j'avais un chien. Mon chien m'a retrouvée alors que j'étais partie en voiture.
Wow.
Il a monté les 4 étages, les 3 étages, il a ouvert la porte, et ça, j'ai jamais compris. Il a sauté sur mon lit, alors que j'étais partie en voiture.
À 100 kilomètres de là.
À 5 kilomètres
de là. Oui, alors il y a des histoires comme ça, hein, des chiens qui même font beaucoup plus pour retrouver leur maître. Hein. Ils savent.
C'est terrible. Alors j'ai dû le ramener parce que je n'avais pas le droit de le garder à cause de, parce que j'étais pas chez moi. Et un an après, il a eu une crise cardiaque, alors il était toujours encore jeune. Mmh. Il n'a pas supporté.
Donc là, vous, et pourquoi vous n'avez pas été au bout du procès? Ça aurait été une jolie réparation pour vous, une réparation fondamentale surtout.
Oui, figurez-vous que j'ai pris un avocat, j'étais presque au bout, mais pas complètement parce que d'abord l'avocat, il était très bien d'ailleurs cet avocat, mais j'ai gagné mon procès, mais et l'avocat a dit qu'il n'avait plus rien, qu'il avait tout dilapidé, et qu'il y avait aussi, moi j'avais fait aussi un procès parce que ma grand-mère m'avait donné par amour et tout ça, elle avait mis dans une malle la rentrée de famille armoriée qu'elle avait pu récupérer et tout un trousseau pensant que j'allais me marier normalement et tout ça. Et elle avait mis tout ça dans une malle, elle m'avait donné, et d'autres aussi m'avaient donné, j'avais tout mis dans une malle. Et du jour au lendemain, mon père voulant me punir, cette malle a disparu. Elle a réapparu 10 ans, 15 ans après, chez mon frère. Et ça avait été volé, en fait, carrément volé. Donc, moi, vous savez, je suis passée de sidération en sidération. J'ai mis des années à mettre des mots. Je les note, les mots, parce que comme je suis au départ pas d'expression française, ça venait pas du premier coup. Donc, j'ai écrit pour ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle La poupée désarticulée.
Ah oui. Alors, dites-nous où on peut le trouver, parce qu'il y a des auditeurs qui posent la question. La poupée désarticulée de la Bohème à la Touraine, c'est bien ça?
Voilà,
Chez l'Harmattan de Magda De Rieder. Je le dis pour les auditeurs qui demandent où on peut trouver votre livre, Magda. Mais quelle vie vous avez eue? Comment vous vous êtes retrouvée en France?
Alors, j'avais justement mon petit appartement que j'avais arraché des mains de mon père, puisqu'il l'aurait pris aussi. Et donc, j'avais pu acheter ces deux pièces. Donc, pour moi, c'était un début de bas. Sinon, j'étais comme une SDR, vous voyez. Mais vraiment sans domicile fixe.
Oui, bah, de toute façon, ça a été l'histoire de votre vie, hein, sans domicile fixe, jusqu'à...
D'ailleurs, tous les SDR me connaissent, parce que je suis proche d'eux. Hein. C'est fou, hein. Je suis née dans un palais, et je suis proche des SDF, hein. Ça c'est l'histoire de ma vie, ça.
Et parce que votre père aussi, sa stratégie était que le seul référent pour tout, votre seule demeure, c'était votre père, voilà, c'est ça, hein. Donc c'était l'entreprise d'emprise, hein, voilà, qu'il avait mis en place aussi.
C'est ça. Et puis en plus, avec la culpabilité, il passait son temps à me culpabiliser de tout, faisait des listes de mes défauts. Enfin, c'était terrible, terrible.
Donc vous sortez un peu de cette emprise quand vous achetez votre deux pièces. C'est géographique, mais l'emprise psychologique. Comment vous avez fait pour...
C'est le procès? Elle est restée un peu parce que... Alors là, heureusement, j'avais une petite liberté. Surtout, j'étais artiste. Alors, je me suis liée à d'amitié avec une autre dame qui était artiste aussi. Donc, j'ai commencé à avoir une vie un peu à moi. Et puis, j'ai été invitée chez une dame assez importante en Touraine qui était une amie de parents d'élèves, en fait, qui était venue chez mon père. Et elle m'a invitée pour les vendanges. Et donc, il y avait des jeunes à l'époque qui faisaient les vendanges. Et je me suis dit, je vais y aller. Et enfin, je voulais y aller. Donc, j'y suis allée durant les vendanges. Et là, il y avait des jeunes qui faisaient la fête. Enfin, c'était sympathique. C'était dans un petit château, ici en Touraine. Très, très joli château. Et donc, du coup, j'ai rencontré plein de gens là. Et il y a un jeune qui m'a fait un peu la cour. Et sans que je lui attache beaucoup d'importance, parce que j'étais très prude. Et puis, un an après, il m'écrit en disant « Est-ce que tu pourrais m'illustrer des poèmes ?» Parce que j'illustrais des textes qu'il avait écrits. J'ai dit « Moi, je ne peux pas me déplacer, mais viens. Si tu veux, tu viens. » Alors, j'ai vu arriver un jeune petit aristo, un peu guindé, mais avec une jolie tête et sympathique, gentil. Et puis voilà, il est venu chez moi. Et après, il m'a dit « Je t'invite en Touraine ».
Et là, vous aviez à peu près 27 ans, quelque chose comme ça.
Ben oui, parce que mon fils, il est né, il avait 30 ans. Et j'avais 28 ans même.
Voilà.
Donc, en fait... Je suis retournée en Touraine parce qu'il m'avait invitée. J'ai dit « Bon, je risque rien d'aller, c'est une bonne famille. » Et en fait, quand je suis allée chez lui, j'étais enceinte dès le premier rapport.
Ah.
Donc, j'étais enceinte de mon fils.
Donc, il vous a épousée.
Il m'a épousée. Il était un peu sidéré parce que c'était pas tout de suite prévu, mais je sentais qu'il avait envie d'enfant, il m'avait dit, mais on n'était pas mariés. Alors, il a quand même eu la délicatesse et tout de suite de dire, je te présente à mes parents. Et quand j'ai vu ses parents, je me suis dit, oh, il y a une famille, c'est une famille. Alors, j'ai voulu me marier. Mais je ne voulais pas me marier parce que j'avais trop peur des hommes. Mais quand j'ai vu ma belle-mère et mon beau-père, des gens bien, quoi, des gens bien éduqués et qui m'avaient bien accepté, je me suis dit, ben oui, alors là, je veux pas laisser mes enfants sans famille.
Oui, voilà. Bien sûr. Alors, c'est comme ça que vous vous retrouvez en Touraine. Et vous avez été mariée combien de temps, Magda ?
Alors, j'ai été mariée pendant 10 ans. Ma fille avait 6 ans, 5-6 ans, et mon fils avait 10-11 ans.
Et pendant ce temps-là, vous vivez de votre art ?
Et je vivais de mon art, et lui, il était à la SNCF, donc on vivait pas très riche, mais justement, comme il gagnait pas bien sa vie, j'ai tout vendu ce que j'avais en Suisse et j'ai tout rapatrié en Touraine pour l'aider.
Il a été gentil pendant tout le mariage.
Il était impulsif, il n'était pas méchant, hein, il n'était pas violent, il était impulsif, il était un peu narcissique, ça veut dire qu'il ne s'intéressait pas trop à mon art, il ne s'intéressait pas trop à moi non plus, dans le sens de l'intérêt, vous voyez ce qu'on a de l'autre, quoi.
Oui.
Il était content d'avoir un beau petit garçon, une belle petite fille et tout ça. Il était content de son statut social un peu aussi amélioré. Mais j'ai pas eu l'impression. Si, il était amoureux, mais de façon un peu superficielle, je vous dirais.
Et est-ce qu'à ce moment-là de votre vie, vous coupez les ponts avec votre père ?
Ah oui. Mais là, j'étais obligée, hein. Parce que dès que j'ai fait le procès, mon père m'a insulté devant le juge qui l'a remis à sa place. Et là, j'ai eu un soulagement quand un juge remet à sa place quelqu'un qui s'est conduit depuis des années. Vous savez, qui vous met la tête
comme
sous l'eau.
Comme un tyran.
Un tyran. Voilà, il était tyrannique au possible. Et là, je me suis dit, je suis libérée, rien que parce que le juge a remis déjà mon père à sa place. en disant maintenant, vous lui parlez autrement.
Oui, et puis c'est le cadre juridique, hein, donc ça, la parole a plus de sens. Hein, c'est pourquoi on dit toujours aux victimes de prédateurs, d'abuseurs, de harceleurs, de mettre la loi. De mettre la loi. Ça porte bien son nom. Hein.
Ah oui, c'est ça. Et ça, je l'ai mis un peu tard. Et puis, c'est aussi par rapport à mon frère. Il n'est pas très, très correct avec moi non plus. Mais j'ai tellement peur de perdre. J'avais tellement peur de perdre. La seule chose que j'avais, c'est mon père. C'était mon seul repère. Et mon frère, ma seule famille. Comment voulez-vous de tout perdre ?
Eh oui. Oui, ben j'espère que vous ne culpabilisez pas de cela, hein, quand même, aujourd'hui, à votre âge, Magda.
Ah non, je culpabilise pas.
Voilà. Vous avez fait ce que vous aviez pu, avec ce que vous aviez à l'époque aussi. Hein. Donc, c'est ça, surtout.
Non, je culpabilise pas. Simplement, j'essaie de comprendre... par exemple, là, avec mon frère, pourquoi il n'est pas venu depuis 30 ans, depuis 25 à 30 ans, il n'est pas venu me voir.
Vous lui avez demandé ?
Oui, 10 fois. Et quand je suis allée à Prague, je sentais qu'il avait envie que je reparte.
Peut-être parce qu'il l'a mis de côté, il a refoulé, en tout cas, il souhaite refouler cette partie de sa vie, peut-être.
C'est ça, et même, je sais, parce qu'on arrive à discuter, mais il discute toujours à côté, ça veut dire pas de lui ni de moi, mais de politique ou d'autres choses, jamais de lui ni jamais de moi. Mmh. Il ne me pose jamais la question de savoir comment je vais ou comment vont. Mais par contre, il vient toujours par le biais de. Il parle de politique ou de ce qui se passe, mais jamais de choses personnelles.
Parce que trop douloureux.
Ouais, trop douloureux.
Ouais. Ce que vous nous racontez, c'est une enfant martyre, hein, tout de même. Vous avez eu tous les deux des enfances martyres, avec un père qui vous a complètement instrumentalisé l'un comme l'autre, hein, qui vous a possédé.
Ouais.
Et vous, en plus, au sens propre, hein, aussi. Vous voyez,
ouais, donc, au sens physique du terme aussi, voilà. Parce qu'il m'a frappé aussi, mon père. Hein. Il m'a traumatisé, il m'a frappé.
Oui.
Alors qu'il n'aurait jamais osé frapper mon frère. Hein. Il m'a traumatisé.
Vous savez, hein, peut-être que votre frère culpabilise de vous avoir laissé à l'époque aussi. Hein.
Je pense, mais il pourrait faire quelque chose de plus... Enfin, il fait, hein, il me donne de temps en temps, il m'envoie un peu d'argent comme ci, comme ça, mais sans avoir partagé. Mais je sais qu'il a de l'affection. Avant, il m'envoyait des lettres quand il était aux Canaries, mais il se préoccupait de moi. Hein. Il s'est toujours préoccupé.
Moi, je crois qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'il ne fait. Vous voyez, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas.
Oui, je sais. Et il a à un moment donné mon fils était perdu parce que quand mon mari est parti avec la voisine du palier quand j'étais à Prague, enfin il a pas mon couple n'a pas tenu. Donc j'étais dans cette histoire quand des restitutions, je suis retournée pour aider mon frère et mon père mon mari il a été voir ailleurs quoi. Alors que je partais 15 jours, hein, pas plus, parce que je suis toujours occupée de mes enfants en priorité. Et encore maintenant, j'ai toujours la priorité. Maintenant, ma fille a des problèmes, mais je m'occupe d'elle à 100%, tout le temps. Et mon fils, par contre, quand mon fils perdait les pédales, j'ai envoyé mon fils chez mon frère. Et mon frère l'a adopté pendant 2 ans. Il l'a pris là-bas à Prague comme son fils.
Oui, donc vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Sauf que l'amour ne peut pas s'exprimer comme vous le souhaiteriez parce que trop de blessures.
Trop de blessures, et figurez-vous, moi, comme vous dites, martyr, c'est vrai, moi, je sortais d'un sentiment parfois d'enfer, je ne m'en sortais pas, surtout qu'il me culpabilisait tout le temps, je ne savais plus quoi. Figurez-vous qu'à par la suite, après mon divorce et tout ça, je me suis retrouvée seule avec les enfants et j'ai rencontré un homme, martyr aussi, qui avait été martyr de son père, violent avec sa mère, et qui a les trois fils, dont un fils a tiré carrément sur son père. Et il a fait, donc mon ami a fait, je l'ai su après, 54 ans de prison. Il m'a raconté son histoire quand je l'ai rencontré. Ouais. On s'est mis à pleurer tous les deux. On s'était rencontrés sur nos blessures, quoi.
Oui, oui. Et votre histoire a duré combien de temps, Magda ?
Cinq ans. Mais il avait touché, malheureusement, avant que je le voie, il a fait des bêtises, parce que je suis allée le voir plusieurs fois pour des bagarres, hein. Il n'a jamais tué personne, mais je suis allée le voir en prison, au parloir, je me suis complètement investie, j'étais vraiment amoureuse de lui. C'est la première fois que j'ai vraiment vécu une histoire de couple, alors qu'on avait 20 ans de différence, hein. Et il avait 20 ans de moins que moi, mais ça ne se voyait pas du tout. Parce qu'on était sur la même longueur d'onde complètement, alors donc du coup, je me suis mobilisée pour lui tout le temps, et lui n'arrivait pas à se détacher non plus de moi, donc on a vécu ensemble pendant 5 ans, mais mes enfants étaient très inquiets. Peut-être parce qu'il était quand même, ça avait été un peu un voyou quand même. Hein. Oui. Il avait touché à la drogue.
Il avait fait de la prison. Il avait fait de la prison. Voilà, c'est sûr que c'est pas évident dans une famille quand on voilà.
Voilà. Alors donc c'est surtout ma fille qui était toujours inquiète pour moi. Il était un peu impulsif, mais il aimait mes enfants. Il était fier d'eux et tout ça. C'est pas au niveau de l'amour, mais c'est des comportementales. Et puis il fallait survivre. Vous voyez, il avait un petit boulot d'électricien et tout ça. Et puis à un moment donné, il s'est remis un peu. Moi, j'ai dû déménager encore deux fois, trois fois, parce que j'étais en problématique d'argent, j'ai dû demander un logement social. Mais enfin, tout ça, c'était trop. Il y avait trop de choses autour de moi qui fait que je n'arrivais pas à surmonter. Surtout, j'avais une vie d'artiste, d'ailleurs très très forte, parce que je donnais tout à l'art à ce moment-là. Donc, mais j'avais mes enfants plus lui. Mais on s'aimait. Alors quand on s'aime, vous savez, on peut accepter
plus de choses.
Ouais, voilà.
Et se battre pour plus de choses. Oui.
Voilà. Mais à un moment donné, quand j'ai déménagé, moi je voulais pas qu'il loge avec ma fille qui avait des problèmes de santé déjà, et enfin des problèmes, mais ou qui était très rebelle par rapport à lui, et je voulais qu'il reprenne un appartement à lui. Il a pas tellement supporté la séparation, mais c'était aussi parce qu'il s'était remis un peu à boire, et moi je supportais pas l'alcool, ni il avait été quand même à l'héroïne à un moment donné dans sa vie, hein. Ça je l'ai pas su, hein.
Oui, vous aviez besoin quand même à un moment donné de stabilité et d'harmonie, ouais, avec le parcours que vous avez eu aussi, hein.
C'était trop. Alors donc, pourtant, vraiment, on s'aimait. Et j'ai toujours aimé, d'ailleurs, les gens, les hommes, même si ça n'a jamais duré, on ne s'est jamais quitté d'une façon volontaire. C'était la vie, quoi. Et alors donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire, ce qui est dramatique, c'est que lui, il n'a pas supporté. Et vous êtes
séparés. Magda, on arrive à la fin de l'émission.
Il est décédé.
Magda, on retrouve votre histoire dans votre livre. Je redonne le titre, La poupée désarticulée de Magda de Rieder aux éditions L'Harmattan. Un grand merci, Magda, d'avoir partagé votre longue tranche de vie pleine d'enseignements ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Un grand merci, merci Magda, un grand merci, merci à vous. Et Philippe merci. nous dit, dites bonsoir à Magda en tchèque, Dobrý Večer, c'est ça?
Dobrý Večer.
Voilà,
oui, bonne soirée.
Il dit qu'il adore Prague et le Pont Charles. Moi aussi j'adore Prague. Merci beaucoup.